tous, merci d'écouter RFI. 11h en temps universel, il est 13h à Paris et à Rome.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux partout dans le monde. Et à la une, l'attente toujours au Vatican. Il y a un peu plus d'une heure, c'était de nouveau une fumée noire qui est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine. Il va falloir attendre encore avant de connaître le nom du successeur du pape François. Et les nombreux fidèles qui se pressent place Saint-Pierre en profitent pour exprimer leurs attentes.
Aujourd'hui, les catholiques en Europe représentent à peu près 20% des catholiques du monde entier. Donc voilà, il y a forcément un décentrage de l'Europe avec une église en fait multipolaire, dans un monde multipolaire, avec des zones en croissance qui sont plutôt Afrique-Asie, la moitié des catholiques en Amérique latine avec aussi l'Amérique du Nord. Comment être une église dans la diversité des églises locales? C'est ça aussi la mission du pape.
Un témoignage et reportage de nos envoyés spéciaux à Rome à retrouver dans nos journaux. Ce 8 mai est une journée de commémoration en Europe, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, notamment, se souvient sans aucun représentant russe pour cause de guerre en Ukraine. Et la décision fait polémique, nous le verrons dans une demi-heure. Vous pourrez aussi entendre le témoignage d'une rescapée des camps de la mort, déportée à l'âge de 11 ans parce que juive. Lily Lénier s'est donné une mission depuis. Raconter et raconter encore pour que jamais personne n'oublie l'horreur de cette guerre. Et puis dans Afrique Midi, nous reviendrons sur le rôle joué par les soldats africains dans ce conflit.
RFI Midi.
On parlera aussi de l'Allemagne aujourd'hui au niveau politique, de la décision du nouveau gouvernement de durcir les conditions d'immigration. La plupart des demandeurs d'asile seront désormais refoulés. L'équipe de Friedrich Merz tourne le dos à la politique d'accueil mise en place il y a 10 ans par la chancelière issue pourtant du même parti, Angela Merkel. Analyse avec notre invité dans un peu plus d'une heure. L'entretien politique, dans quelques minutes, le président de la commission Défense nationale à l'Assemblée en France. Et puis si vous n'avez pas écouté RFI hier soir, mini résumé. Paris est en finale de la Ligue des Champions. Le PSG a de nouveau battu Arsenal au match retour et on retrouvera l'époustouflant Inter Milan à la fin du mois. On y revient dans trois quarts d'heure avec Cédric de Oliveira qui a suivi et commenté la rencontre d'hier. Et puis dans le journal des sports, bien sûr, à midi et quart, temps universel. Vous avez le programme, bienvenue. Et tout de suite le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie aujourd'hui.
Oui, c'est jour férié en France. À Paris, Emmanuel Macron présidera en fin d'après-midi la traditionnelle cérémonie au pied de l'Arc de Triomphe. Cette journée rend hommage aux combattants et aux populations civiles victimes de la guerre. Cette année, l'accent est mis sur la transmission de la mémoire avec la présence des derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale, Franck Alexandre.
Ce 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 est probablement l'une des dernières occasions de voir des témoins directs du second conflit mondial. Depuis le début du cycle commémoratif 2024-2025, la mission Libération a donc reçu pour objectif d'honorer les sacrifices de ceux qui ont combattu et de ceux qui ont souffert, mais pas seulement. Un travail de recueil des témoignages et des mémoires a également été mené dans toute la France, insiste Michel Delion, directeur général de la mission Libération.
C'est une des dernières occasions de pouvoir échanger avec eux et donc une nécessité pour nous de nous tourner vers du numérique et en particulier vers un recours maîtrisé à l'intelligence artificielle pour permettre de rendre vivante cette mémoire, y compris au moment où ils auront disparu. Et l'un des témoignages les plus émouvants, c'est celui d'un vétéran des combats de Normandie qui nous a dit se souvenir des chers fantômes de sa jeunesse, a jamais disparu, mais toujours présent.
Plusieurs témoins, anciens combattants, résistants, survivants, parmi les derniers, seront donc présents cet après-midi, place de l'Étoile, en compagnie des plus jeunes, trait d'union symbolique entre générations.
Franck Alexandre, en Russie, c'est demain, 9 mai, qu'aura lieu sur la place rouge de Moscou la grande parade militaire. Des soldats chinois prendront part au défilé sous les yeux de Vladimir Poutine et de son homologue Xi Jinping. Dans le même temps est entrée en vigueur la trêve temporaire de 3 jours décrétée par le maître du Kremlin. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir lancé des attaques nocturnes aux bombes aériennes guidées. Et toutefois, l'armée de l'air ukrainienne a noté dans un communiqué l'absence depuis minuit de tirs de missiles et de drones de combat russes. russe.
Les tensions sont redescendues d'un cran entre l'Inde et le Pakistan après une longue journée de bombardements.
Oui, la nuit dernière, les armées des deux pays ont à nouveau échangé quelques tirs à leurs frontières. Le Pakistan annonce par ailleurs avoir abattu au moins 25 drones de fabrication israélienne dans le ciel d'au moins 9 villes, certaines abritant des casernes à l'image de Rawalpindi, la ville jumelle d'Islamabad. Les précisions sur place de Sonia Ghezali.
Panique dans les rues de Rawalpindi, la ville garnison voisine d'Islamabad. Un tir a touché une rue très fréquentée. Un témoin sur place a partagé la vidéo qu'il a prise sur le moment. Il témoigne en état de choc.
J'étais en train de travailler juste devant le stade de Rawalpindi. Une roquette a frappé ici. J'étais assis juste devant. Les vitres du bâtiment ont été brisées. Le gars là-bas a été blessé. Regardez l'état du bâtiment ici. J'ai dû courir pour me mettre à l'abri. Regardez, le stade est juste ici.
Des drones dans le ciel au-dessus de plusieurs villes du Pakistan tout au long de la nuit au petit matin. Au cœur de Lahore, Ahmad, qui vit près de l'école navale de guerre, a été réveillé par des sirènes qui ont donné l'alerte.
Il était environ 6h50 du matin. Les sirènes ont retenti, puis il y a eu un bruit d'explosion. Nous sommes tous sortis en courant de nos maisons. Les secours et des ambulances sont ensuite arrivés dans la zone. Cela s'est passé très vite.
Le porte-parole de l'armée a pris la parole dans une allocution télévisée ce matin. Il dénonce une provocation très grave. L'Inde paye cher et continuera de payer cher pour cette agression manifeste et ses actions, dit-il. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
La confrontation Inde-Pakistan cette semaine restera comme la plus violente des deux dernières décennies. Les bombardements ont causé la mort d'au moins 43 personnes dans les deux camps, dont de nombreux civils. Hier soir, le premier ministre pakistanais a promis de venger tous les martyrs, laissant présager d'autres opérations. Au Vatican, encore de la fumée noire ce matin. Elle s'est échappée en fin de matinée de la chapelle Sixtine, au deuxième jour du conclave. Signe que les deux tours de vote effectués dans la matinée n'ont pas permis aux cardinaux électeurs d'élire un nouveau pape.
En Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne condamne une violation des droits de l'enfant.
Oui, plusieurs écoles tenues par l'ONU, dont trois à Jérusalem-Est, ont été brutalement fermées par des forces de la police israélienne. Pour celles-ci, ces écoles fonctionnent illégalement en l'absence d'autorisation. En ce qui concerne maintenant la bande de Gaza, territoire plongé dans une catastrophe humanitaire, les secours palestiniens font savoir qu'ils sont au bord de la paralysie. L'acheminement de l'aide est empêché par Israël depuis plus de deux mois. 75% des véhicules de secours sont immobilisés faute de carburant. Abla Jounaïdi, bonjour.
Bonjour.
La défense civile palestinienne alerte par ailleurs sur la grave pénurie de générateurs et d'appareils à oxygène.
Oui, à nouveau, la défense civile palestinienne tire la sonnette d'alarme depuis plus de neuf semaines. Vous l'avez dit, Israël bloque l'aide humanitaire. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas de carburant. Fin avril, déjà, l'organisation annonçait qu'elle n'avait plus les moyens de faire fonctionner les véhicules d'incendie, de secours et d'ambulance dans les gouvernorats du sud de la bande de Gaza, immobilisant 8 véhicules sur 10. Désormais, selon son porte-parole, 75% de ces véhicules sont hors service dans l'enclave en raison de la pénurie de diesel. Alors que les massacres de civils se multiplient à un rythme effréné depuis le 18 mars, cela veut dire concrètement que le transport de ces personnes est encore davantage entravé. La pénurie de carburant, elle affecte en plus directement les hôpitaux qui en ont besoin pour alimenter leur équipement via les générateurs. Ces générateurs électriques essentiels eux-mêmes viennent à manquer avec le blocus, alerte la défense palestinienne aujourd'hui, de même que les machines à oxygène. Voilà des semaines que nombre d'organisations internationales alertent sur les conséquences du blocus total. Chaque jour qui passe expose la population à un risque croissant de famine, de maladie et de mort.
Abla Jounaïdi, dans l'actualité économique, d'abord cette déclaration du président américain Donald Trump. Il traite d'imbécile le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, pour avoir maintenu le statu quo sur les taux d'intérêt. Les comptes de Toyota, géant japonais de l'automobile, ils sont plombés par les surtaxes douanières américaines. Ils évaluent leur coût à plus d'un milliard d'euros. Toyota anticipe un effondrement de 35% de son bénéfice cette année. Comme ses concurrents, Toyota souffre de la baisse des ventes de voitures à travers le monde, mais il est aussi particulièrement vulnérable à l'offensive douanière lancée par Washington.
En France, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la restriction du droit du sol à Mayotte.
Oui, Mayotte, département français dans l'océan Indien. Le Conseil constitutionnel avait été saisi après le vote de la loi conditionnant l'accès à la nationalité française. Elle le conditionne à la présence en France des deux parents en situation régulière depuis un an minimum avant la naissance de l'enfant. La jeune Chaïma Atoumani est née à Mayotte. patriote. Elle ne peut pas bénéficier du droit du sol car ses parents étaient sans papier à sa naissance. Aujourd'hui, elle se retrouve bloquée dans le 101e département français. Elle raconte sa peur de l'avenir à notre correspondante à Mayotte, Lisa Morisseau.
Aujourd'hui, Shaïma Atoumani fête ses 18 ans, un âge où l'horizon s'élargit. Au contraire, celui de la jeune fille se rétrécit. Sa demande de nationalité française a été refusée quand elle avait 13 ans. Maintenant qu'elle est majeure, elle bascule en situation irrégulière.
Ça me fait très très peur quand j'avais 17. Déjà, on m'avait pris par la PAF.
La police aux frontières l'a finalement relâchée car elle était mineure. Shaïma Atoumani a suivi un CAP petite enfance. Terminé depuis un an, elle n'a pu entreprendre aucun travail ou formation, faute de papier. Elle se sent rejetée par la société mahoraise.
Ça donne des sensations comme être abandonnée. Quand tu vas quelque part pour aller chercher quelque chose à faire, on ne t'accepte pas parce que tu n'as rien.
Au quotidien, elle reste donc chez elle, à Mamoudzou, où elle vit chez sa tante, avec ses cousins. Et chaque jour, ses journées sont longues. Elle ne ressemble
à rien, juste à dormir, cuisiner, veut regarder la télé.
Depuis peu, l'adolescente se rend dans une association qui dispense des cours aux enfants issus de l'immigration. Mais désormais, elle n'est plus sûre de pouvoir y aller, de peur de se faire arrêter par la police et d'être expulsée aux Comores. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Toujours pas de cap politique clair pour la Nouvelle-Calédonie, territoire français situé, lui, dans l'océan Pacifique. Les discussions engagées cette semaine sur son avenir institutionnel ont échoué. Discussions entre indépendantistes et loyalistes sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Enfin, Paris Saint-Germain, Inter Milan, c'est l'affiche cette année de la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de football. Vainqueur hier soir d'Arsenal, 2-1, le PSG est bien au rendez-vous de la finale, 5 ans après celle perdue contre le Bayern Munich. Rendez-vous est pris pour la finale le 31 mai à Munich. Tout de suite, un autre rendez-vous avec Anne Cantner pour la suite d'RFI Midi.
À tout à l'heure, Gilles Moreau. L'actualité en France pour commencer.
RFI. France à midi.
Ça se complique pour le groupe Nestlé Waters, mis en demeure hier par les autorités. L'entreprise a 2 mois pour retirer ses très contestés systèmes de microfiltration dans le sud de la France, là où elle produit la célèbre eau de Perrier. Cette affaire, elle a commencé il y a un an grâce à des révélations de nos confrères de Radio France et du journal Le Monde sur ces pratiques contraires aux règles. Mais jusque-là, Juliette Pietraszewski, Nestlé avait obtenu une dérogation pour continuer d'utiliser des filtres non conformes dans ses usines.
Oui, et tout ça malgré les alertes de l'Agence de sécurité sanitaire et du directeur général de la santé. C'est le cabinet de l'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, qui a accordé à Nestlé cette dérogation. Un arbre qui cache la forêt, puisque cette révélation est intervenue au sein d'une affaire bien plus grande. Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Et pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont donc eu recours à des systèmes de purification interdits, mais jugés nécessaires par les intéressés pour, je cite, « assurer la sécurité alimentaire des produits ».
Et en fin de compte, au début de l'année 2024, le groupe Nestlé a publiquement reconnu avoir utilisé par le passé des traitements illégaux.
Oui, à savoir des ultraviolets et du charbon actif. Nestlé dit les avoir remplacés par la suite par un système de microfiltration à 0,2 microns. Le but, purifier une eau régulièrement contaminée par des bactéries et des pesticides. Et c'est donc, Anne, ce système que le groupe va devoir supprimer sur son site de Vergèze parce qu'il modifie les caractéristiques microbiologiques de l'eau en contradiction avec la réglementation, précise le préfet du Gard, dans la mise en demeure de Nestlé.
L'autre information à retenir concernant Nestlé, c'est que le renouvellement de son autorisation pour exploiter ses forages à Vergèze est à l'étude.
Oui, 5 forages destinés à la fabrication d'eau minérale naturelle Perrier. La décision du préfet sur cette exploitation devrait intervenir avant le 7 août prochain. Dans un communiqué, le groupe Nestlé dit vouloir se conformer à cette demande préfectorale et rechercher une solution technique pour le site de Vergèze qui, je cite, pourrait permettre d'autoriser la poursuite de l'exploitation de l'eau minérale naturelle. Et la pression est grande puisque l'usine en question emploie 1 millier d'employés. Le préfet rappelle quant à lui que les bouteilles Perrier commercialisé jusqu'à ce jour ne présente aucun risque sanitaire pour les consommateurs.
Et derrière cette affaire Perrier, la question centrale, c'est comment produire de l'eau minérale naturelle alors que la pureté originelle de l'eau n'est plus assurée.
C'est justement l'un des sujets abordés par une commission d'enquête mise en place en novembre dernier. Elle s'intéresse aux pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Le rapport est attendu le 19 mai prochain. Pour rappel, Anne, depuis 2009, les eaux minérales naturelles sont encadrées par une directive européenne. Elle définit les eaux minérales naturelles par par leur teneur en minéraux, leur pureté originelle, et précise qu'elles ne peuvent pas faire l'objet de désinfection. Les seuls traitements autorisés par arrêté préfectoral ont pour objectif de retirer des éléments dits instables, comme le fer ou le soufre par exemple, ou de retenir des constituants indésirables. Or, des hydrogéologues sollicités par la préfecture du Gard ont déjà rendu un avis négatif concernant la possibilité de continuer à exploiter les forages de Nestlé à Vergèze, reflet d'une dégradation de la qualité des eaux. Dernièrement, de nouveaux épisodes de contamination, notamment par des bactéries pathogènes, ont eu lieu au sein de l'usine Perrier du Gard, provoquant l'arrêt d'une ligne de production et le blocage d'environ 300 000 bouteilles. Face à la difficulté de produire à Vergèze une eau respectant les normes des eaux minérales naturelles, le groupe Nestlé a déjà réaffecté en 2022 deux forages du site pour produire sa nouvelle marque, une boisson vendue sans l'appellation eau minérale naturelle.
Juliette Pietraszewski.
RFI Midi.
L'entretien politique. Aujourd'hui, Véronique Rigolet, vous recevez Jean-Michel Jacques, député de la 6e circonscription du Morbihan et président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale.
Bonjour Jean-Michel Jacques.
Bonjour madame.
Merci de nous rejoindre sur RFI en ce jour de commémoration, 80 ans après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, au terme d'une seconde guerre mondiale qui aura fait plus de 60 millions de morts, le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Et alors qu'on célèbre 80 ans de paix, eh bien la guerre est à nouveau aux portes de l'Europe, en Ukraine. Jean-Michel Jacques, de quelle manière cela impacte-t-il les commémorations aujourd'hui ? Est-ce que ça les rend peut-être encore plus importantes ?
Oui, quelque part, ces commémorations, ce 80e anniversaire est teinté de ce qui se passe en Ukraine. Et vous voyez, je sors juste d'une commémoration dans une petite commune bretonne, Brandérian. Et lors des discussions après la cérémonie avec mes concitoyens, on le voit bien qu'ils font naturellement un parallèle entre ce qui s'est passé il y a 80 ans, ce qui se passe actuellement, et surtout en arrière-plan avec cette idée de liberté qui peut être perdue et à quel prix doit-elle être préservée. Et c'est vraiment ce que représente aussi le 8 mai, c'est cette victoire des pays, des alliés qui portaient des idées de liberté face à une Allemagne nazie totalitaire. Et donc on retrouve dans l'esprit de nos concitoyens, en tout cas que j'ai rencontré ce matin, cette idée, ils en font un lien.
Et la paix n'est donc jamais acquise, hein, c'est impératif de se le redire aujourd'hui.
C'est ça, la paix n'est jamais acquise. Les discours qu'on a entendus et que j'ai pu faire aussi ce matin le montrent bien. Les gens en sont conscients. On passe une période trouble de notre histoire. On est rentré dans une nouvelle ère. On le voit bien, les guerres réapparaissent. Et derrière ces guerres, il y a surtout aussi des idées, des idéologies avec des visions de société qui sont totalement différentes. Et nous, la France, nous les Européens, nous portons un certain nombre de valeurs. Nous avons une façon de vivre que nous voulons préserver. Et finalement, c'est ça derrière toute l'actualité qui se passe. C'est quel sera notre degré d'engagement pour préserver, eh bien, notre modèle social, notre liberté, notre capacité, notre indépendance, notre souveraineté. Et là, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe dans ces vents mauvais qui ressoufflent à nouveau la montée de l'extrême droite, l'antisémitisme ?
Oui, bien sûr, on le voit en plus au niveau même national, au niveau intérieur, mais et au niveau international aussi, on voit des pays qui se permettent des agressions fortes, qui amènent des guerres, et puis qui bafouent le droit international. Donc non seulement il peut y avoir des replis identitaires dans les sociétés, et on peut le retrouver en France, mais surtout et en plus, on retrouve à un niveau international une agressivité de certains pays, certaines dictatures qui est débridée et qui bafoue le droit international. Mais même au-delà des dictatures, on le retrouve, même les États-Unis se permettent de bafouer ce droit, ou en tout cas de le remettre en cause à travers en tout cas l'administration Trump. Donc effectivement, plus que jamais, nous devons être conscients que nous devons être en mesure de défendre nos valeurs. Et pour ça, et notre modèle de société, et pour ça, eh bien, nous devons nous muscler. Nous devons avoir un modèle d'armée qui permette de défendre notre liberté si besoin, permettre de faire valoir nos intérêts, parce que la France, les Français n'ont pas envie de basculer dans un autre modèle que celui qui est le leur.
Alors on y vient, hein, face à ces menaces russes, face également, vous l'évoquiez, au désengagement américain, l'Europe se réarme, et pas qu'un peu, hein, 500 milliards d'euros pour construire enfin une Europe de la défense. La France, elle, entend porter son budget défense à 100 milliards d'euros par an. Est-ce suffisant ? Est-ce qu'on en aura surtout les moyens dans une France aujourd'hui en pleine rigueur budgétaire ?
Écoutez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il ne peut pas y avoir de nation, il ne peut pas y avoir de modèle sociétal sans sécurité et sans défense et sans prospérité. Et on le voit bien dans ce monde actuel qui est bouleversé, nous devons absolument pouvoir faire valoir nos droits, nos valeurs, déjà dans un premier temps, et ensuite nos droits ainsi que pouvoir faire prospérer notre économie sans être soumis à des diktats extérieurs, chose que certains souhaitent faire sur la France, sur l'Europe. Et on voit bien, si nous voulons garder ce modèle que nous avons forgé depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il faut absolument que nous puissions le défendre.
Mais concrètement, Jean-Michel Jacques, est-ce que la France a les moyens ? Est-ce qu'elle est déjà entrée en action, hein, à monter en puissance, notamment peut-être sur le front industriel, pour bâtir une véritable industrie de guerre ?
Alors, depuis 2015, la France a remonté son budget militaire, particulièrement depuis 2017, de façon significative, au point de doubler son budget pour les armées en l'espace de 10 ans. Ceci étant dit, il faut aller plus loin et, comme vous le dites, il faut aussi que notre modèle industriel de défense puisse monter en puissance, parce que nous le voyons bien, ce qui fait aussi que l'on puisse se faire respecter, eh bien, c'est le fait d'avoir des muscles, c'est-à-dire le fait d'avoir des capacités suffisantes en nombre et en qualité. Et pour ça, nous devons rentrer dans une logique d'économie de guerre qui a été appelée de ses voeux par le président de la République maintenant il y a 3 ans. Et nous commençons à avoir les résultats. Bien entendu, c'est lent à mettre en œuvre et ça a été lent parce que une entreprise ne peut pas changer du jour au lendemain. Si elle veut pouvoir s'agrandir, eh bien, il faut qu'elle puisse investir, il faut qu'elle change ses lignes de production, qu'elle recrute. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais là, on le voit. D'ailleurs, moi, dans ma circonscription, j'avais une fonderie qui travaillait pour Renault dans l'automobile. Renault s'est désengagé. Et bien maintenant, cette fonderie, la fonderie de Bretagne, va faire des obus pour pouvoir remplir son plan de charge et pouvoir produire ces obus qu'on a besoin pour la France, mais aussi pour nos amis ukrainiens qui en ont besoin pour se défendre et pour de bien d'autres pays qui en ont besoin. Donc, vous voyez, cette industrie de défense se met en œuvre depuis 3 ans. Ça prend du temps, mais ça commence à se concrétiser, mais il va falloir aller encore plus loin.
L'idée étant de se passer au cours de la prochaine décennie, sans doute, des armes américaines.
Oui, les États-Unis ont fait un pivot vers l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire leur préoccupation, c'est la Chine. Du coup, ils se désengagent du côté européen et c'est maintenant à nous, pays européens, de prendre nos responsabilités. Alors, je dis nous pour les Européens, mais sachez que la France, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle avait pris ses responsabilités grâce au général de Gaulle en investissant dès la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, vers la dissuasion nucléaire.
On y vient.
Et en faisant une armée complète, c'est-à-dire une armée qui est en capacité de se renseigner à travers l'espace, par exemple, hein, d'analyser et de mener des actions, voire de se projeter. Et tous les pays européens ne l'ont pas fait. La France est unique dans ce modèle-là, avec les Anglais, bien sûr, qui avaient aussi agi dans ce sens. Mais nous avons un rôle particulier en Europe et nous pouvons être fiers de notre histoire. Mais ceci dit, nous devons aller plus loin.
Un rôle particulier et sans doute une responsabilité particulière. Le chancelier allemand Merz, hier, l'a à nouveau demandé. Est-ce que la France doit mettre sa dissuasion nucléaire au profit des autres membres de l'Union ?
Alors, vous savez, les États-Unis, c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Ils ont proposé leur parapluie de dissuasion nucléaire. Mmh. Eh bien oui, la France, nous pouvons aussi le faire. Ce qui ne veut pas dire, hein, et je le précise tout de suite, parce que certaines personnes et même personnalités politiques dénaturent les choses en disant que on ne peut pas partager le bouton. Il n'en est pas question. La France maintient sa capacité de frappe et c'est elle qui est en capacité d'appuyer sur le bouton. Mais ceci dit, à travers sa dissuasion, elle peut épauler d'autres pays européens qui ont besoin de cette protection et qui n'ont pas fait des investissements tels que la France l'a fait après la Seconde Guerre mondiale.
Sans renoncer à sa souveraineté. Merci Jean-Michel Jacques, député Renaissance, président de la Commission Défense de l'Assemblée nationale. Une très bonne journée à vous.
Merci madame.
Vous vous souvenez peut-être du magnifique 3 mois qui avait transporté la flamme olympique l'année dernière pour les Jeux de Paris. Sur le Belém, à l'époque, se trouvaient 15 jeunes en insertion professionnelle, dont Zabi Yakbi, réfugié afghan qui travaille aujourd'hui sur un chantier naval dans l'ouest à La Rochelle, où Baptiste Coulon est allé le rencontrer.
À première vue, c'est un labyrinthe. Pas facile de s'orienter dans l'immense chantier naval en pleine effervescence. Alors nous sommes guidés jusqu'au département menuiserie où nous attend Zabi Yakbi.
Je te laisse juste mettre une vis et après...
Le jeune homme travaille sur l'aménagement d'un imposant catamaran.
Bah, mon travail, c'est préparer les chambres, la cuisine, la salle de bain et toilettes avec du bois.
Là, on est devant un dressing que vous avez construit.
Oui, le placard et le meuble. Il y a tout dedans, tout est nécessaire.
Grâce au voyage olympique à bord du Belém, Zabi dit avoir trouvé sa voie toujours dans l'univers marin.
Avant de travailler ici, j'étais un peu perdu dans ma tête. Et ce voyage, ça me donnait envie de travailler dans le bois, dans le bateau. Et je l'aime bien, ça m'intéresse.
C'est après, bon. Tu te mets à niveau, là.
Après avoir quitté l'Afghanistan, Zabi Yakbi s'est réfugié en France en 2021. Et dans ses nouveaux habits de menuisier, dit-il, il a retrouvé confiance en lui.
Quand tu vois tout ce que tu as fait à la fin de ton travail, j'ai dit voilà, j'ai quelqu'un fort en fait, j'ai un vrai menuisier. Parce qu'avant, je n'étais pas capable de terminer un travail joli, tout seul et tout propre. Mais aujourd'hui, quand je vois et je touche, c'est vraiment artistique. Bien sûr, je pense souvent la main sur le bois à la fin de mon boulot pour savoir si le bois il est bien lisse ou pas. C'est la sensation qui me rend heureux à la fin de mon boulot. La fierté aussi.
Ça, c'était à Marseille.
C'était incroyable en fait, c'était dingue.
Sur son téléphone, Zabi conserve les souvenirs de l'arrivée à Marseille à bord du Belém. Un an plus tard, ce métier de menuisier lui plaît, mais il se dit découragé par le maigre salaire qu'il perçoit, insuffisant pour aider sa famille, notamment sa femme installée en Iran, où les cours de français ont un coût élevé.
Vous avez déjà essayé de la faire venir en France ?
Oui, j'ai fait une demande de regroupement familial, mais malheureusement ça a été refusé parce que mon salaire n'était même pas au niveau du SMIC.
Alors le jeune homme prévoit de faire une nouvelle demande dès que possible. En attendant, c'est le sentiment d'abandon qu'éprouve le réfugié.
Représenter la flamme olympique, représenter la France, c'est une grande chose, mais par contre, il ne faut pas nous oublier aussi. Il faut nous aider. Aidez-moi de faire venir ma femme. Aidez-moi au niveau logement, de travail, de vie quotidienne, quoi, pour changer vraiment ma vie.
Une vie que Zabi Yakbi espère poursuivre en France. Il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour, mais il attend toujours une réponse 8 mois après sa demande.
Reportage de Baptiste Coulon à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe. On va beaucoup parler des commémorations du 8 mai. Nous sommes 80 ans aujourd'hui après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Lose Low.
Premier regard, il est parfait. Il est piqué, innocent, il n'aurait pas dû me le montrer. Très vite, je me suis lassé de lui. Je perds pas de temps, je vais retrouver Sugar.
Grandation et Michael Rose.
RFI Musique. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Peintres, comédiens, sculpteurs, ils ont quitté la France de Vichy pour Londres, New York ou Buenos Aires. Le musée de l'armée retrace le combat des artistes en exil qui ont mis leur créativité au service de la résistance. L'exposition s'intitule « Un exil combattant, les artistes et la France ».
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsaire.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.